TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. On n'était pas là la semaine dernière parce que, comme vous avez dû l'entendre la dernière fois, on a changé un petit peu de timing. On publie tous les 15 jours désormais. Donc j'espère que vous ne nous avez pas attendu lundi dernier. En plus, c'était férié, je crois, d'ailleurs. Non, c'était pas férié, je raconte n'importe quoi, mais bref. J'espère que vous ne nous avez pas attendu. Et du coup, pour fêter ce nouveau format, on a un petit nouveau. Bon, je dis petit parce qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps, parce qu'il est bien plus grand que moi, mais bon, c'est pas très grave. Donc, je te laisse te présenter à nos auditeurs, Vianney, et parle-nous un petit peu de toi, qu'ils puissent te connaître. Après, ils vont apprendre à te connaître au fur et à mesure des épisodes.
Ouais, bah, bonjour à tous, je m'appelle Vianney, et je suis un petit nouveau parce que je suis arrivé chez C2S en début d'année, début janvier. Mais effectivement, je ne suis pas tout petit non plus, j'ai 42 ans. Je viens d'arriver à Tours, chez C2S, où j'ai habité pendant 20 ans à peu près en Île-de-France avant. Et donc je suis arrivé en tant qu'architecte logiciel. Et avant, j'ai beaucoup travaillé dans une petite entreprise qui s'appelle ASAP, qui est éditeur de logiciels en supply chain, dans lequel j'ai monté les grades, j'ai fait mes galons en informatique et ingénierie informatique, quoi. Et je suis très content de rejoindre l'équipe du podcast.
Cool. Eh bien, bienvenue Vianney, on est très heureux de t'avoir avec nous aussi. Ça fait une nouvelle voix, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une nouvelle voix dans l'équipe. Il y en a qui sont partis. Il y en a eu un moment depuis un moment qui ne sont pas arrivés. Donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, au menu, on va vous parler de deux, peut-être trois sujets. On verra par rapport au timing. On va dire deux et on verra pour trois après. Le premier, ça va être le changement de licence de Redis. On a déjà parlé un petit peu de ce type de sujet-là dernièrement. C'était pas pour Redis, c'était pour d'autres éditeurs. Je pense à Chicorp en particulier. Donc là, on va essayer de refaire un petit peu le tour de ce sujet-là. Et on vous parlera ensuite de la faille XZ qui est intervenue courant mars. Une faille assez importante qui a fait un petit raz-de-marée dans le monde de l'open source. Donc on essaiera de revenir un petit peu sur ce sujet-là, de comprendre les impacts un peu, ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se reproduise plus ou que ça se reproduise moins, on va dire. Donc Vianney, baptême du feu, je te laisse commencer par la partie Redis du coup. À toi l'antenne.
Oui, merci. Alors la partie Redis, donc c'est déjà pour rappel, Redis c'est quoi ? C'est au départ c'est un système de cache qui permet de surtout de partager des informations entre différents composants dans le logiciel. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le cloud notamment parce que ça permet de faire de la synchronisation d'informations, de données, etc. entre différentes briques. C'est un outil extrêmement populaire qui était open source jusqu'à récemment, c'est-à-dire gratuit, code source ouvert, etc. Et qui depuis une semaine ou deux là, c'est terminé. Ils ont décidé de ne plus être open source dans le sens officiel du terme. Ils ont maintenant un double système de licence en fait, qui n'est plus celui qu'il y avait avant. Et pourquoi double ? Parce qu'en fait, ils veulent avoir un système de licence différent pour les utilisateurs particuliers ou les petites entreprises, on va dire. Et de l'autre côté, une autre licence qui est dédiée aux gros providers comme du cloud notamment, comme Azure, Amazon, Google, etc. Alors pourquoi ils veulent changer de licence ? En fait, si on regarde leur argumentaire, ça peut paraître assez logique, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Comme c'est open source, ils n'ont pas forcément des revenus très stables. Ça dépend de comment ils s'organisent, mais eux, ce n'était pas le cas. Et ce qu'ils veulent pouvoir faire aujourd'hui, c'est de facturer les gros providers du cloud qui, eux, se servent, qui proposent Redis à leurs clients en les facturant, parce qu'on paye les providers du cloud. Sauf que cet argent, il n'y en a aucun qui revient vers Redis derrière. Donc c'est ça l'objectif en fait, c'est d'arriver à une sorte de royalties pour avoir de l'argent par rapport à leurs produits.
C'est rigolo parce que la dernière phrase que tu viens de dire en fait elle sonne dans ma tête avec le second sujet qu'on va avoir, la redistribution des ressources dans le monde de l'open source et le manque de moyens, c'est assez rigolo. On va revenir dessus tout à l'heure mais ça se rejoint un petit peu. Pour apporter un tout petit peu plus de précision à nos auditeurs du coup, historiquement Redis ils étaient sur une licence BSD du coup. BSD à 3 clauses, ils appellent ça, donc une licence quand même plutôt permissive. Et là, du coup, les petites nouvelles qu'ils ont mis, c'est RSAL V2 et SSPL V1. Donc Redis Source Available License, qui est leur licence personnalisée, on va dire, et Server Side Public License pour la seconde. Donc avec RSAL, on peut toujours copier, distribuer, créer des forks, mettre à dispo ce composant-là, au même titre que BSD. Mais voilà, ce que tu disais, c'est que ça interdit toute commercialisation ou fourniture en tant que service manager. C'est ça qui est important, que les gros GAFAM arrêtent de se gaver gratuitement sur leur dos. En traduction simple. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que, je crois que tu ne l'avais pas dit, Microsoft a déjà conclu un accord commercial avec Redis. Ils ont été super rapides. D'ailleurs, je les soupçonne d'avoir anticipé cette affaire-là en sous-marin derrière. Donc voilà, ils protègent leur service Azure Cache, j'imagine. Donc c'est intéressant.
Alors en fait, il faut savoir que Microsoft fait partie de la fondation Redis, du board en fait. Donc ils étaient au courant depuis très longtemps à mon avis, et ils se sont préparés à l'éventualité. Mais ça c'est pour Microsoft, parce qu'en fait le problème c'est qu'à côté, les autres, notamment Amazon et Google, eux, a priori là, ils disent non, on ne veut pas du tout de votre changement de licence, on n'a pas prévu de suivre. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont rejoint un autre acteur qui est hyper important, qui s'appelle la Linux Foundation, qui dans le monde de l'open source est la référence ultime, on va dire. Qui a décidé de se passer de Redis, puisque eux, c'est Linux, donc ils ont besoin d'avoir que des licences open source pour continuer à publier leur logiciel 100% open source. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des composants qui ne le soient pas. Et donc, ils ont décidé de forker justement Redis et d'en faire une version officiellement portée par eux qui va s'appeler Valkyrie, qui va être open source. En fait, les gros acteurs comme Amazon et Google, ils ont sauté sur l'occasion, ils ont mis de l'argent, ils se sont associés officiellement pour faire porter cette solution. Ce qui fait qu'effectivement, il y a un peu un schisme d'un côté entre Microsoft qui a accepté de soutenir Redis dans sa démarche, et de l'autre côté, Google et Amazon notamment, mais pas que, il y en a d'autres, qui soutiennent la Linux Foundation pour avoir une version qui continue d'être open source.
En tout cas, c'est vachement intéressant. Cet événement a mis en lumière un certain nombre d'acteurs. Tu as parlé de Valkyrie, là, qui était un peu un petit nouveau. Je pense aussi à... Alors, Microsoft, du coup, joue un peu double jeu, parce que je pensais aussi à Garnet, qui développe de leur côté. Pour en revenir dessus, il est... Bon, c'est dans le même esprit, mais un petit peu spécifique, très orienté perf. Ils ont fait des jolies choses de ce côté-là. Et j'en ai identifié d'autres que je connaissais pas forcément toutes. J'avais notamment noté KiDB, qui était assez intéressant de ce côté-là. J'avais noté Redict, qui est un fork un peu officiel et brut de Redis post-version 7.4, là. Et Dragonfly, donc c'est des alternatives qui existaient déjà avant, qui étaient plutôt bien établies sur le marché, d'ailleurs. Dragonfly est assez connu, semble-t-il. Bon, on ne s'est jamais servi, mais il était assez connu. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres solutions qui sont assez sympas et qui rendent un service similaire.
Du coup, pour compléter, jusqu'à maintenant, donc c'est gratuit jusqu'à la version 7.4. C'est à ce moment-là où il y a eu le changement. Et par rapport à ce que tu disais, Vinay, je me demande, aujourd'hui, on n'est pas non plus capable de dire si Valkyrie ne va pas faire ce même changement par la suite comme Redis. Parce que finalement, Amazon, Google, ils disent « Ok, on va investir dans un autre. » Parce qu'ils ne veulent pas payer, ou du moins signer le contrat de licence. Mais c'est mettre de l'argent autre part alors qu'il pourrait très bien rester avec Redis. J'ai du mal à comprendre en fait ce choix.
Après, moi je trouve qu'il y a quand même une tendance assez importante ces dernières années là. Les boîtes, elles commencent à faire un produit en mode licence libre, donc le plus souvent BSD, voire AGPL, enfin des licences assez permissives. Et une fois qu'ils se rendent compte que la sauce est prise, que le produit fonctionne, qu'il est pas mal utilisé et compagnie, là, bam, ils changent de licence, ils passent sur quelque chose de mix payant pour les gros, et ils gardent quelque chose d'un peu plus permissif pour les autres. On voit, c'est ce qu'a fait Mongo, c'est ce qu'a fait Elastic, c'est ce qu'a fait Confluent, c'est un peu ce qu'a fait HashiCorp. Et je trouve que ça, c'est quand même une tendance dans le marché de ces outils-là qui est assez profonde, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Alors, en fait, il y avait déjà eu des cas il y a quelques temps déjà. Je pense à TinyMCE, où tous les outils de Rich Textbox qu'on utilise dans le front, parfois où ils étaient gratuits et ils sont quasiment tous passés payants. Moi, j'imagine que c'est pour que les gens qui les développent puissent vivre, hein, on va dire. Mais là, on a l'impression qu'ils attendent d'être, comme on dirait, too big to fail. Dans la tech, comme Redis, c'est-à-dire que tout le monde se basait, dès qu'on parlait cache, on parlait Redis quasiment tout de suite. Mais ils deviennent vraiment indispensables. Et une fois qu'ils sont indispensables, là, ils deviennent payants.
Après, ce n'est pas la première fois que Redis change un produit de licence. En 2018-2019, ils avaient déjà changé des modules et ça s'était plutôt bien passé. Aujourd'hui, enfin, moi, de mon avis, ils continuent d'investir. L'investissement, c'est un coût. À un moment, il faut quand même qu'ils ne soient pas les seuls à investir, alors qu'il y en a qui profitent gratuitement. Du coup, on peut retrouver aussi, il y avait MongoDB où ils avaient changé de licence, et pour eux, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu d'affolement de ce type-là.
Alors, en fait, moi, je voudrais juste rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites, là. D'abord, est-ce que Valky va pas faire la même chose que Redis? La réponse, elle, clairement, c'est non. C'est pourquoi? Parce que c'est la Linux Foundation qui est en charge de Valky, qui a pris en charge Valky. La Linux Foundation, c'est la référence mondiale de l'open source. Donc si eux, ils commencent à faire ça, c'est terminé. ça n'arrivera jamais, quoi. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que Amazon, Google, etc., ils supportent cette initiative? Bah, parce que pour eux, c'est tout bénef dans le sens où ils vont participer à ce projet en mettant de l'argent sur la table. Mais l'argent qu'ils vont mettre, c'est quelques millions peut-être, et c'est rien du tout par rapport à ce que va leur apporter l'utilisation de l'outil. Alors que s'ils facturent Redis, comme Redis le demande, à l'utilisation, ça va leur coûter beaucoup, beaucoup plus cher, en réalité. Donc c'est là l'intérêt des gros, en fait.
Et en plus, ils bénéficient de l'open source, ce qui est un gros avantage quand on voit par exemple le .NET, où quand on fait de l'open source, il y a une communauté qui se fonde, ça fait de la R&D gratuite, de la correction de bugs gratuite, donc il y a quasiment que des bénéfices pour eux.
Ouais, ouais, quand tout le monde joue le jeu, je suis d'accord, et là ça a l'air d'être le cas pour Valky, parce qu'il y a des intérêts derrière et compagnie. On verra tout à l'heure que pour certains plus petits produits, c'est nettement moins le cas, et que du coup, il y a d'autres problématiques qui rentrent en compte, et que là, c'est pas si facile. Mais ouais, c'est sûr que si les CSP jouent le jeu et qu'ils contribuent, en termes de temps ou en termes financiers, d'ailleurs, peu importe, ça revient à peu près au même. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, quoi. Côté Garnet, là, je sais pas si vous avez regardé, là, du coup, moi, je me suis penché un peu sur celui-là, parce que il me faisait un petit peu de l'œil, il avait l'air assez sympa. En termes de perf, ils ont publié toute une série de benchmarks qui montrent qu'il est quand même très très performant, très orienté perf. Et en particulier sur un point qui pêchait un peu côté Redis, c'était quand il y avait énormément de sessions utilisateurs en parallèle. Redis avait tendance à s'effondrer, s'effondrer c'est un bien gros mot, mais avait tendance à ralentir un peu la cadence. Alors que là, Garnet arrive à conserver un haut niveau de performance, un haut niveau de débit. Donc ça a l'air assez sympa. Même par rapport à ses autres concurrents, ils ont fait un bel effort. Je trouve que l'outil a un potentiel. Je ne sais pas à quel point ils vont s'en servir dans leur stack Azure, hein, typiquement, mais il y a quelque chose de sympa à faire, je pense.
Alors moi, sur Garnet, j'avais juste regardé un peu la partie technique, justement, en C#, parce que c'est fait en .NET, Garnet. Comment ils font pour aller aussi vite? Il faut s'accrocher un peu, quand même. C'est du code très très technique. En fait, ils descendent à un niveau très très bas et ils exploitent très peu la puissance du C# dans le sens où ils écrivent du code qui pourrait être du C, en fait. Donc, mais clairement, ça montre que ils veulent la perfo, c'est un des objectifs prioritaires de Garnet. Ouais.
Ouais, je suis pas allé aussi loin que toi dans l'analyse. Là, j'avais vu que c'était du C#, mais ouais, c'est intéressant. J'irai voir du coup. Leur documentation est assez bien détaillée. Ça a l'air de. Enfin, c'est un outil qui a l'air assez mûr dans le sens où. Contrairement à Valky, qui me semble très récent, Garnet existe déjà depuis quelques temps. Donc du coup, il y a à voir. Ce sera un sujet à suivre, en tout cas, dans les mois et les années à venir.
Sur Redis, il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir, de pourquoi ça fait un gros clash quand même dans la communauté, parce que tout le monde n'est pas content, loin de là même. Et il y a deux soucis. Le problème, c'est qu'avec leur changement de licence, ils cherchent à se faire payer. Donc on sait pourquoi maintenant. Le problème, c'est que, comme c'était open source avant, il y a eu des centaines, voire des milliers de contributeurs dans le passé qui ont participé au projet, et eux, ils vont toucher zéro. Ce qui n'est pas juste du tout, puisqu'ils vont pas être... Il y en a même qui ont demandé officiellement à Redis de retirer leur code source, celui qu'ils avaient commité, en disant « vous n'avez plus le droit de l'utiliser ». Alors en fait, ils ne peuvent pas faire ça, mais ils essayent quand même. Et puis la deuxième chose qui n'est pas honnête de la part de Redis, et c'est surtout ça la source du clash, c'est qu'en fait, si on regarde sur les dernières années, notamment les 5 dernières années, qui a participé au projet Redis, on se rend compte qu'il y a plus de la moitié, c'est des contributeurs externes qui ne sont pas chez Redis, en fait. Et qui sont ces contributeurs? C'est des gens d'Amazon, de Microsoft, de Tencent, qui est le plus gros contributeur. C'est une grosse entreprise chinoise. J'ai appris ça au passage, que c'était eux les plus gros contributeurs de Redis. Et donc, quand ils disent on a besoin de moyens pour financer notre R&D, sachant que plus que la moitié de la R&D est faite par des gens qui ne sont pas chez eux, bah, ça ne passe pas bien. L'argument, il n'est pas simple.
Bah, y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Donc déjà, le fait que ce soit Tencent, on en reparlera peut-être dans la seconde partie du podcast. Et ça me fait penser à une idée qui pourrait être intéressante, en fait, dans le sens où on pourrait très bien voir ça comme une économie, comme une bourse, en fait, quand on participe à un projet, qu'on gagne des actions d'un produit. Et qu'une fois qu'il passe payant, on devienne actionnaire et directement de la société. Ça pourrait être intéressant d'avoir un compteur comme ça pour encourager les gens à participer à des projets open source qui deviendront privés par la suite. Donc je pense qu'il y a une idée de plateforme concurrençant GitHub à mettre en place.
tout ça, ça va se finir en blockchain. Tu vas avoir ton jeton de participation et tu auras une rétribution au nombre de jetons que tu as au moment du paiement des licences.
Ouais, un système de crédit, en effet, c'est... Je sais pas trop si c'est dans la philosophie originelle, mais c'est un concept intéressant.
Ouais, ben ouais. On a la prochaine monnaie crypto sur laquelle investir.
Super, impeccable. Bon, ben sur ces bonnes paroles, on va aller essayer de monter un business model et on va arrêter TechVox du coup, parce qu'on va gagner plein d'argent. Bon, ben c'était top. Merci, messieurs. C'était super intéressant. On manquera pas de vous reparler de ce sujet-là, je pense, dans des prochains épisodes, parce que j'ai peur que ce genre de scénario se reproduise à l'avenir avec d'autres éditeurs. Donc on verra, on manquera pas de vous tenir au courant de ces choses-là. Ça va devenir une chronique, exactement. On pourra peut-être pas tous les 15 jours, allez, tous les mois, on peut en trouver un. Super, donc on va passer au deuxième sujet qui est la faille XZ. C'est quoi XZ? C'est une bibliothèque, LibLZMA, qui sert à faire de la compression, en gros, avec le format LZMA 2. Elle a eu une alerte de sécurité qui porte un petit nom à coucher dehors, comme d'habitude, là, la CVE 2024-3094, et qui a un score de 10 sur 10 sur l'échelle là, de ce type de score de sécurité, l'échelle CVSS. Pourquoi ? Il y a eu une compromission dans la chaîne d'approvisionnement à partir des versions 5.6.0 et 5.6.1. Pour faire simple, en gros, il y a du code malveillant qui a été intégré dedans et qui permet de déployer une backdoor sur la machine. Alors, c'est quoi XZ ? Donc, c'est une lib qui est présente dans de très nombreuses distributions Linux, Fedora, Debian, OpenSUSE, Arch Linux, bref, j'en passe à des meilleurs, et qui permet donc de faire de la compression de données. C'est pas un gros système, mais en tout cas, c'est très utilisé en tant que dépendance par d'autres applications, comme souvent sur ces choses-là. Le hic, c'est qu'il y a essentiellement un seul contributeur depuis pas mal de temps. Donc là, le support est assez light. La faille, c'est quoi ? Donc elle est arrivée fin février 2024, donc il n'y a pas très longtemps. À partir de la 5.6.0, comme je le disais, il y a du code malveillant qui a été dissimulé par l'intermédiaire d'un fichier M4 avec du code obfusqué. Ce fichier-là, il était visible uniquement lorsque le paquet il était téléchargé en intégralité, et il n'était donc pas visible sur le repository Git. Pardon. Et en plus de ça, le déclenchement de cette backdoor, il répondait à pas mal de conditions qui minimisent ou qui réduisaient les chances de découverte de cette faille-là. Et après, en gros, la backdoor, qu'est-ce qu'elle offrait ? Un accès distant à l'attaquant via SSH, et en plus sans avoir forcément besoin de connaître les identifiants de l'utilisateur. Donc globalement, la communauté a reconnu un assez haut niveau de technicité et surtout d'ingéniosité sur cette faille, qui était assez surprenante. Et d'ailleurs, le petit génie qui a découvert ça, là, c'est Andres Freund, un ingénieur chez Microsoft qui bossait sur un sujet Postgres, si je ne me trompe pas, qui a fait cette découverte un petit peu par hasard, parce qu'en fait, sur sa machine, il s'était rendu compte que OpenSSH était devenu un peu lent, le SSHD, là. Du coup, il s'est dit, c'est bizarre, je vais creuser un peu, et en remontant la pelote, il est tombé là-dessus. On vous donnera le lien de la description du bug, c'est pointu, mais assez intéressant. Et du coup, alors, comment est-ce que c'est arrivé ? En fait, c'est très simple, il y a un contributeur, JAT75, qui est arrivé il y a environ 2 ans sur ce projet-là, et qui est devenu, au fur et à mesure des années, le second contributeur du projet, donc derrière son auteur historique. Il a réalisé de nombreuses contributions qui étaient parfaitement valables hein, sur le projet. Et du coup, il a préparé le terrain pour avoir une certaine crédibilité, pour peut-être préparer aussi un petit peu son attaque, et au dernier moment, quand tout était réuni, bam, il a attaqué et il a pu lancer cette faille-là. Donc semble-t-il que c'est probablement une attaque qui a été menée apparemment par un acteur plutôt étatique ou à minima une grande organisation. Hein. Ça semble pas être une action individuelle. Il y a beaucoup trop d'enjeux, beaucoup trop de moyens qui ont été mis en place. En tout cas, ça met le doigt sur énormément de choses. Ça pose pas mal de questions, notamment quel sera l'impact de cet événement sur l'environnement du libre, notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que XZ est complètement foutu désormais, qui va croire encore dans cette librairie ? Quid de l'impact de ce contributeur sur d'autres projets ? Apparemment, il a déjà réalisé d'autres commits ailleurs sur d'autres projets. Donc est-ce que, par hasard, il aurait mis des vulnérabilités ailleurs ? Et donc, en tout cas, ça a mis le doigt sur un des gros points faibles du libre. géré depuis quasiment 15 ans exclusivement par un seul développeur historique. Bah, celui-ci, il a vu d'un super bon œil un nouvel arrivant pour lui filer un coup de main, lui refiler les clés du camion, et après, derrière, le camion se retrouve dans le fossé. Donc on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, cette problématique de manque de ressources, même sur des sujets qui sont non critiques, mais qui font partie des dépendances de nombre d'autres logiciels. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous souhaitez peut-être compléter des choses que j'aurais dit, ou réagir aux questions que je vous ai posées. En tout cas, c'est un sujet super intéressant, je pense qu'il y a de quoi dire.
Ouais, je voudrais juste... Il y a un point qui est important, tu l'as dit, mais pour insister dessus, c'est le fait que c'est une faille de TX Supply Chain, c'est-à-dire qu'en fait, sur GitHub, on a le repository, on a l'ensemble du code source de... Alors, de XZ dans ce cas-là, mais c'est vrai pour tous les repositories, qui sont open source en tout cas. Mais derrière, il y a tout ce qu'on appelle un pipeline de build, de CI/CD pour déployer l'outil, le livrer, etc. Et en fait, lui, l'attaquant s'est débrouillé de manière très ingénieuse pour que son attaque, elle arrive après la compilation du code source. Donc c'est quelque chose, si on va sur le code source de XZ sur GitHub, on verra pas la faille, elle n'existe pas en fait. C'est quelque chose qui arrive après dans les pipelines de build. Et du coup, techniquement, la question que ça pose, c'est est-ce que tout ne devrait pas être visible à 100% dans un repository GitHub, ou absolument tout ce qui se passe doit être visible par tout le monde sans étape cachée qui peuvent justement être exploitées comme l'a fait cette personne.
Et au-delà de l'aspect technique dont vous avez très bien parlé, il y a aussi je ne sais pas si vous avez regardé ce qui s'est passé vraiment avant que la faille se passe au niveau du repo, parce que si j'ai bien compris, il n'y avait qu'une seule personne en fait qui maintenait le repo qui est utilisé un petit peu partout. Et l'attaquant, en fait, il a un peu forcé la main sur CPR et sur le fait de reprendre la main sur le repo en disant accepte mes PR. Il lui a dit c'est pas normal que tu acceptes pas mes PR, etc. Enfin, il a eu des échanges en fait avec la personne. Il a pas juste fait une PR, il a eu des échanges avec lui de manière assez agressive en fait. Je suspecte quand même beaucoup une équipe derrière, parce que pour quand tu vois la complexité technique, et en plus l'insistance avec laquelle la personne parle dans les messages, en fait, si vous regardez la conversation, il lui force quasiment la main, en fait, dans les échanges. Il voit que la personne, elle a pas le temps de répondre à toutes les remontées qu'elle a. Et vient la question, justement, d'open source, dont on parlait tout à l'heure. Quand on est seul à maintenir un projet comme ça et qu'on n'est pas payé pour le faire et que c'est un projet à côté, j'ai l'impression qu'on se retrouve vite à avoir beaucoup de demandes, beaucoup d'échanges avec des gens. Et en fait, c'est ultra chronophage, parce que même au-delà de l'aspect technique, il y a des gens qui vont vous dire « regarde ma PR, j'ai un problème », etc. Donc avoir une communauté derrière, c'est important.
Et d'autant plus, j'insiste en particulier, d'autant plus quand c'est un projet qui est énormément utilisé en tant que dépendance. Parce que tu peux très bien développer un petit projet dans ton coin en mode side project ou une libre révolutionnaire qui ne l'est pas tellement et qui n'est pas énormément utilisée. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est moins gênant. Mais là, on est sur un outil qui est... Alors, j'ai pas regardé l'arbre de dépendance exact, mais on est quand même sur une libre qui est très utilisée dans énormément de produits. Et sur lequel on repose sur un contributeur principal, peut-être une deuxième personne en dehors de l'attaquant. C'est quand même ultra léger, quoi. C'est que quand on revenait tout à l'heure sur tu disais, Vianney, les contributeurs de Redis, c'était énormément d'autres boîtes qui contribuaient à ça. Là, dans ce cas-là, c'est pas du tout le cas en fait.
Il y a quand même un truc qu'il faut bien noter aussi, c'est que cette faille de type supply chain attack, elle n'arrive que dans un canal de distribution particulier en utilisant l'outil qui s'appelle Systemd pour installer la librairie sur des distributions Linux. Donc déjà, ce que ça veut dire, pour moi, c'est que le repository XZ, il n'est pas du tout acheté à la poubelle et les gens vont continuer à lui faire confiance parce que le code source, il est bon, en fait. La solution continue d'être bonne. Par contre, ce qui va être revu de fond en comble, à mon avis, c'est toute la partie CI/CD via Systemd de XZ. En disant, c'est ce qu'on a fait, c'est il a pu exploiter notre système, il faut qu'on le revoie, en fait. Mais c'est pas, ça remet pas en cause le projet complet, en fait. Je pense que la librairie continuera d'exister tranquillement et il n'y a pas une énorme perte à ce niveau-là, en fait.
Mais ce qui est vraiment... déjà, il y a deux choses qui sont inquiétantes, c'est que la faille, elle a été découverte un petit peu par erreur, si j'ai bien compris. C'est quelqu'un qui trouvait que je ne sais plus si c'est sa mémoire ou son processeur qui consommait trop pour une tâche subitement, et il a été voir derrière et il s'est rendu compte qu'il a tiré la pelote, il est tombé sur quelque chose alors qu'il faisait juste des tests de perf à la base, et il a trouvé ça bizarre. Donc c'est-à-dire qu'elle était vraiment trouvée par hasard, donc il y en a sûrement plein d'autres qui sont dans la nature, qu'on n'a pas vu. Et si j'ai bien compris aussi, ils ont mis en place un système pour qu'il n'y ait qu'eux qui puissent exploiter la faille, parce qu'ils ont mis en place une backdoor avec une clé de signature qu'il faut fournir pour pouvoir entrer dans le système, si j'ai bien tout suivi. Donc ça veut dire que, pour moi, ils ont ciblé une librairie qui est utilisée dans beaucoup de systèmes Linux, de manière ciblée, sur en plus une librairie qui sert à quoi ? À faire de la data compression. Donc, c'est pas un des domaines les plus simples dans l'informatique. En plus, tu peux avoir des algorithmes d'obfuscation, des choses comme ça. Si tu regardes de la donnée cryptée à l'œil nu, que tu l'ouvres dans un fichier texte, tu vas rien voir en fait. Donc tu peux avoir limite du code machine que tu ne saurais pas en filigrane, quoi. Et donc c'est pour ça que pour moi je suis convaincu qu'il y a une grosse équipe derrière, parce que déjà ils ont ciblé un repo, il n'y a qu'une seule personne qui s'en occupe, qui soit déployée dans plein de systèmes, qui en plus fait de la data compression. Ça fait des années qu'il la prépare en plus, parce que quand on regarde la personne, je me souviens plus, c'est un nom, ce nom c'est chinoise il me semble, qui a fait les PR, il a été sur, ça fait au moins 2 ans je crois, voire 3, qu'il a commencé ça. Ça prend du temps, donc c'est forcément été financé par quelqu'un.
Ouais, ça c'est une certitude. Qui, je sais pas, je pense qu'on le saura jamais, mais c'est une certitude. Alors en tout cas, comme tu disais Vianney, ça remet en cause pas mal de choses sur, alors pas sur le code source, je suis plutôt d'accord avec toi, mais sur tout l'outillage qui tourne autour de tout ça. Et je sais pas si à l'heure actuelle il y a des outils qui existent qui auraient pu permettre de détecter ça en amont, ou à minima de rendre le process plus transparent, et du coup potentiellement de permettre de s'en rendre compte plus tôt. Parce que là finalement, par chance entre guillemets, ou par hasard, je sais pas, vous le prenez comme vous voulez, elle a été découverte vachement vite. C'est intervenu fin février. Et Andrés, il l'a trouvé fin mars, un truc comme ça. Donc, en gros, un mois s'est passé entre l'établissement de la faille et sa découverte. Donc c'est quand même plutôt rapide pour quelque chose d'aussi sournois et ingénieusement camouflé. Donc elle aurait très bien pu rester encore très longtemps comme ça sans que personne s'en rende compte, quoi. Là, il y aura peut-être des évolutions à faire sur tout l'outillage ou tous les éléments qu'on a à disposition pour identifier ça au plus vite ou s'en prémunir, quoi. Ce sera des sujets à aborder dans ces domaines-là.
Moi, ça me fait penser à une solution intéressante. C'est pas forcément dans ce cas-là particulier, mais j'ai vu quelque part des notions de shadow requesting. Pour, par exemple, quand vous avez une version d'API et que vous changez quelque chose dans votre nouvelle API, pour vérifier que votre système fonctionne encore, en fait, vous faites 2 réponses et vous testez la réponse d'avant par rapport à la réponse d'après, votre changement. Vous vérifiez que ça fonctionne pareil. Par exemple, imaginons qu'on ait une API, vous ne changez pas l'interface, mais vous faites des modifications au niveau de la couche de base de données. Vous pouvez toujours avoir la version d'avant et la version d'après de votre système qui tourne, et il y a une requête qui est la version d'avant qui va juste être là pour vérifier le delta en fait entre les deux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dès qu'on fait un changement en fait, on compare le résultat du système complet, donc faire des tests d'intégration en fait avec du delta entre la version d'avant et la version d'après.
Oui, tout à fait, c'est un peu le principe du snapshot testing ou ce genre de choses. C'est vrai que ça, c'est super intéressant. Au top. Bon, bah écoutez, merci messieurs. J'espère en tout cas, chers auditeurs, qu'on vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette faille-là. On n'a probablement pas été complet, donc on vous mettra toute une série de liens de personnes très expérimentées sur le domaine qui en parlent très bien. Il y a eu énormément d'experts en sécurité qui ont abordé un petit peu le sujet, sous forme de texte assez technique ou sous forme d'infographie un peu plus agréable à exploiter. En tout cas, c'est un... Bon, il faut reconnaître que c'est quand même une belle attaque, ça a été bien mené. Donc chapeau l'artiste. en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Vianney pour ta première, c'était cool. Donc on te retrouve dans 2 semaines. Et bah, écoutez, chers auditeurs, on vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine fois.